une décennie furieuse de l'italisme. Ce sont les années 70. Des années imperdonnables pour l'Italie.
Impardonnables?
Impardonnables. Et impardonnées.
Perché sono volate molte palle di piombo.
Parce qu'il y avait beaucoup de balles en plomb qui passaient dans l'air.
Et poi di piombo per dire che l'atmosfera era di piombo, cioè grigio piombo.
Et d'un autre côté pour dire que l'atmosphère était gris comme le plomb.
Non, non li chiamo gli anni di piombo.
Non, je les appelle pas les années de plomb et je suis très dérangé. J'ai un gène très fort quand, quand ils sont appelés comme ça.
Mi piacerebbe chiamarli gli anni della grande rivolta in Italia.
J'aimerais les appeler les années de la grande révolte en Italie.
Qui è Radio Nice.
Avete risolto?
Noi abbiamo risolto, voi potete, quando volete potete partire, basta che, insomma, anzi, da questo momento vi mettiamo in onda, quindi parte.
No, momento, scusa.
Fai un po' tu.
No, dai, ricomincio la storia di oggi.
Qui è Radio Nice.
Tutti i compagni, giù in piazza, questa è guerriglia, porco Dio, porco Dio.
Il manifesto cannibale di Dada e i dadaisti che si accapigliano in scena.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Francesco Giorgini. Là-bas, si j'y suis, Italie, année noire, année rouge, année 70. Bologne 2004, Bologne 1977. Aujourd'hui avec Francesco Giorgini dans sa ville. Dans sa ville de Bologne. On se balade et on va évoquer un autre aspect de ces années 70 en Italie. Hier, c'était à Milan, la Piazza Fontana, le terrorisme noir, cet attentat imputé donc aux fascistes, aux extrémistes de droite, avec la complicité des services secrets, avec de probables complicités d'une partie de l'État, avec l'appui, le soutien de la Casa Madre, c'est-à-dire de la CIA, dans le cadre de l'OTAN. Voilà ce qu'on a évoqué hier, donc cet aspect de ces années qu'on s'entête encore à appeler années de plomb, ce qu'on entend derrière moi, effectivement, ça fait assez années de plomb. Aujourd'hui, Bologne est la ville que vous connaissez, c'est une ville absolument magnifique, une ville rouge et rose aussi, rouge politiquement, puisque très longtemps Bologne a été une ville communiste. Elle est redevenue ces jours derniers, Cofferati est redevenu le maire de Bologne, mais rouge et rose aussi, ocre rose, ces pierres roses, ces briques roses que nous connaissons, nous, si nous connaissons Toulouse. En 1977, la subversion, la révolution, la contestation passait par Bologne. Ça a été le grand moment de ces années 70 dans cette ville. À l'époque, le ministre de l'Intérieur évaluait la population socialement subversive, selon ses propres termes, à 100 000 personnes. En Italie, 100 000 personnes, selon les calculs du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'évidemment, ça donne une idée de l'ampleur de ceux qui étaient concernés et impliqués dans cette contestation, dans cette fièvre, comme nous l'a dit Eri Deleca. Ce degré de fièvre en plus que l'Italie a connu pendant toutes ces années. Et s'il y eut effectivement des pages sanglantes, les brigades rouges, s'il y eut des pages terribles, celles du terrorisme noir, il y eut aussi une effervescence étudiante, inventive, joyeuse, créative, pas moins révolutionnaire pour autant, mais beaucoup plus pacifique que l'image qui est restée gravée dans les mémoires et dans l'histoire pour ces années en Italie. Alors on va passer cette heure avec deux anciens combattants qui se présentent comme ça, mais ils se portent très bien, ils sont très beaux, ils sont en parfaite santé, ils ont pas perdu l'énergie, ni le sens de la jubilation, et tout va tourner aujourd'hui autour d'une radio qui s'appelait Radio Alice et qui a été créée à Bologne, qui fut le repère de Bologne dans ces années-là. Avec Biffo, on le rencontre chez lui à Bologne, où il évoque avec bonheur ces années-là, et en évoquant aussi un bouquin qu'il vient de sortir sur Radio Alice. Voilà, Bologne, 1977, les années noires, les années rouges, les années roses de l'Italie des années 70.
Assassini! Non sono come sovesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. Correva l'altro treno ignaro, quasi senza fretta. Nessuno immaginava di andare verso la vendetta. Ma alla stazione di Bologna arrivò una notizia in un baleno. Notizia d'emergenza, agite con urgenza. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Ma corre, 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 corre la locomotiva. È simile il vapore, sembra quasi cosa viva. E sembra dire ai contadini di curvi quel fischio che si spande in aria. Fratello non dovere, che corra il mio dovere. Trionfi la giustizia proletaria. Trionfi la giustizia proletaria. Trionfi la giustizia proletaria.
Je m'appelle Franco Berardi, on me connaît comme Biffo, j'enseigne, j'écris des livres et je m'occupe de temps en temps d'information et de politique, mais pas tellement.
Biffo.
Biffo. Je sais pas pourquoi. C'est mes copains qui à l'école m'appelaient comme ça et après ça a resté.
Alors nous, ce qui nous intéresse dans ton histoire, c'est l'histoire de la radio que vous avez inventée en 1977.
C'est ça. 76, précisément. C'est à la suite d'une sentence de la Cour constitutionnelle italienne qui déclara possible faire des radios libres. Et nous, on était un groupe d'étudiants, de jeunes ouvriers, d'artistes. Et on a décidé de faire une petite radio. L'époque était très vivante à niveau de la politique, de la vie quotidienne. Et en même temps, c'était une époque dure, très conflictuelle. Et Bologne était une ville gouvernée par les partis communistes. Et donc, le mouvement qui éclata en 1977 fut à la fois un mouvement contre l'autoritarisme et la bureaucratie des communistes et contre le capitalisme occidental. Et à un moment donné, on s'est dit, ah, les copains, on peut faire une radio. Ça va coûter très peu. Et la radio, c'était un moyen pour donner la voix aux gens qui n'ont jamais eu la possibilité de parler. C'était notre slogan, la voce di chi non ha mai avuto una voce, la voix de sans voix.
Ecco, guarda, noi siamo un gruppo di operai che stiamo cercando di organizzarci, no? E vedere di venire giù anche noi, perché vogliamo venire a disfare le ossa, perché ci avete già rotto le palle, testa di cazzo che non siete altro, smettetela, porci, e vergognatevi, merde!
Se tu invece di essere a casa fossi qua, sapresti
cosa succedendo? Ma cosa voglio fare, che vi ho visto all'opera?
Cosa sta succedendo?
Cosa sta succedendo?
Succedendo che c'è la gente con i manifestanti, la polizia
che è arrivata a freddo, da fanculo, pezzo di merda, presunto, bombo! Stronzo!
N'importe qui pouvait venir à la rédaction et parler au microphone et dire ces choses à lui. De faire ce qu'on avait envie de faire. Ce qu'on avait envie de faire, évidemment, c'était aussi de se battre contre la dictature de l'ennui, contre la dictature de l'économie, contre la dictature de la répétition. Vive la différence. Tout d'un coup, l'impossible devenait possible, rentrer dans l'horizon du possible.
Come un governo nazista chiude una radio libera.
On faisait des bêtises, non, mais c'était des bêtises pas tellement dangereuses, faut dire. À Bologne, je dirais que le mouvement avait plutôt un caractère de folie, un caractère de... nous, on appelait ça le mouvement mao-dadaïste, pour dire que c'était plutôt l'avant-garde historique qui nous intéressait, c'était plutôt la folie qui se déchaîne dans la communication, dans la vie quotidienne, contre la bureaucratie et contre l'obligation au travail et contre l'économie. C'était l'économie qui nous faisait chier. C'était l'idée que toute la vie doit être soumise à l'argent, au travail, à tout ça. C'était ça qui nous faisait chier.
Les mao-dadaïstes. À Paris, on disait les anarcho-désirants.
C'est ça, c'est ça. Les anarcho-désirants. Ensuite, on veut les autonomes désirants. On nous appelait d'ailleurs comme ça, les autonomes désirants. En 77, nos références intellectuelles, c'était Deleuze et Guattari, je dirais. Moi, personnellement, j'étais marxiste.
Vous êtes tous un peu des bâtards du PCI, quoi.
C'est ça, des bâtards du PCI, c'est... Bah, tu vois, moi, j'avais été inscrit au Parti communiste italien entre 14 ans et 17 ans, et j'étais expulsé à l'âge de 17 ans pour fractionnisme, tu peux imaginer. J'avais été expulsé de la jeunesse communiste, et donc je me considérais comme un ennemi du capitalisme, mais un ennemi du communisme aussi. J'étais un marxiste anti-communiste, anti-autoritaire, et tout ça. C'était la folie au pouvoir qui m'intéressait. Et la folie, ça signifie le corps, la sexualité, le plaisir, la paresse, qui peut se libérer de l'économie. C'est ça, c'était ça l'idée. Et donc, je dirais Deleuze et Guattari, c'était nos maîtres à penser. Un livre qui s'appelait Anti-Édipe. C'était des maîtres à penser tout à fait bizarres, hein, mais c'était ça pour moi.
Tu te souviens des premiers mots qui ont été prononcés sur ta radio, sur cette radio?
C'était l'hymne américain de Jimi Hendrix. Tu te rappelles ça avec la guitare? Ça continue un peu comme ça. Et puis, les premiers mots, c'était « Qui sono gli studi celesti di Radio Alice ?» Ici, c'est les studios célestes de Radio Alice. Et puis, on reprenait des mots du président Mao, mais on déconnait aussi un peu les phrases des Mao. On était justement des Mao-dadaïstes. Donc, on faisait un peu d'ironie même sur le grand timonier.
Qui è Radio Alice?
Era il manifesto cannibale di Dada e i dadaisti che si accapigliano in scena lanciando bistecche crude o avamarce verso il pubblico.
Voi tutti vi siete messi nei panni di coloro che accusano, in piedi. Con voi si può parlare soltanto se state in piedi. State dunque come saudiste la Marsigliese, l'inno nazionale russo o l'inno di Mameli. State come se aveste di fronte a voi la bandiera, o come se foste davanti al Dada, che vuol dire vita e che vi accusa di amare tutto per snobismo e soltanto se è molto caro. Vi siete messi tutti di nuovo a sedere? Tanto meglio, così mi ascolterete con accresciuta attenzione. Che fate voi qui stipati come crostacei compassati? Infatti...
Est-ce que tu te rappelles un peu quel était le palinceste, la grille d'une journée de Radio Alice?
Faut dire que Radio Alice s'est battu avec insistance sur le fait qu'il n'y a pas de palinceste.
Il n'y a pas de grille.
Mais à 10h du matin, il y avait la leçon de yoga qui venait suggérer aux écouteurs « Mettez-vous dans la position du loto et faites comme ça, et faites comme ça. » Et l'après-midi, il y avait les récits de l'horreur. Et puis, il y avait les téléphonates falses, des impostures téléphoniques. C'est-à-dire, on téléphonait au... Moi, j'ai parlé avec Andréotti, qui à l'époque était le président du conseil, qui, en lui disant « Je suis... » Gianni Agnelli, je me suis présenté comme le président de la Fiat et j'ai demandé au secrétaire d'Andréotti de me passer le président du conseil parce que j'avais des choses très urgentes à lui dire. Et lorsque Andréotti est venu me parler, je lui dis, vous savez pas ce qui se passe dans mon usine, il y a les ouvriers qui crient, Andréotti, tu sei pazzo, la classe opéraille non paguera più un cazzo. Et... ce qui signifie, Andréotti, t'es fou, la classe ouvrière ne payera plus un sou. Mais en italien, c'est un peu plus fort, la phrase. Et donc, c'était ça, la grille des Radio Alice. C'était, disons, qui arrivait dans le studio avait le droit de prendre le micro et de faire ce qu'il avait décidé de faire.
Qui est Radio Alice?
Bologna. Mais un million d'habitants. Stati comando di dopoguerra occultate, in fase di ricostruzione. Gradini da sempre e sempre, vetrine ridenti ridenti, occhiate furtive sotto i portici bui. Ma il comunismo è puro, le vetrine si sono spezzate, frammenti di vetro, paura, limpida luce dei giorni in cui qualcuno muore. Ma il comunismo è puro, il comunismo, a ritroso. Sotto le bacheche, ancora e sempre resistenza.
Le soir, on lisait Mayakovsky et on faisait des concerts en direct, c'est-à-dire il y avait des types avec un saxophone ou avec un accordéon qui venaient dans le studio et faisaient un concert dans le studio même.
Una ferrovia, una stazione, il disagio, la metropoli, l'opportunità di andare avanti per il mondo, per i popoli.
Figli della consorteria, lunga è la nostra via.
Binario morto, mantovani, serenei del polemologo, Cabà. La fatalità di approdare sempre al solito epilogo, Cabà.
Et donc, beaucoup de monde nous écoutait pour curiosité ou à cause de ça. Et donc, on était considéré être écouté par 40 000 personnes au début du 77, ce qui, à Bologne, est très important, parce que on était les premiers, donc, et on était tout seul dans les terres bolognaises pour quelques mois.
Qui est Radio Alice? Qui est Radio Alice?
Tutti i compagni giù in piazza, questa è guerriglia, porco Dio, porco Dio.
Qui è Radio Alice?
Dada avanza distruggendo progressivamente.
Qui è Radio Alice?
Sulla strada della morte di Dada, della distensione surrealista.
Qui è Radio Alice.
À un moment, en 77, les mouvements éclata contre les gouvernements du compromis historique, contre la mairie locale, etc. Et à mars 77, la police entra dans l'université occupée et un étudiant fut tué par la police, Francesco Lorusso.
Francesco Lorusso, le 11 mars 1977, les compagnons de Francesco Lorusso, assassinés par la féroce armée du régime en mars 1977,
savent que son idée d'égalité, de liberté et d'amour survivra à tous les crimes. Francesco est vivant et lutte avec nous.
Voilà, c'est une plaque dans une rue de Bologne. Donc
via Mascarella.
Du 11 mars 1977.
Voilà, nous voilà avec Francesco devant, dans cette rue, la rue Mascarella, dans les arcades, dans les interminables et superbes arcades de la ville de Bologne. Là, il y a une plaque, il faut bien dire que plus personne ou peu la remarque, sauf quelques-uns qui sont restés fidèles, qui ont vécu ces moments et qui n'ont pas oublié, qui n'ont pas renoncé, qui n'ont pas renié, qui ne se sont pas repentis. Voilà, c'était la vie et beaucoup en sont fiers encore. Hein. Faut pas croire que c'est un sac de cendre, un sac de plomb sur la tête de chacun, dans la mémoire de tous, concernant ces années 70. C'est ici, en tout cas, qu'est mort ce très jeune homme, ce mort en beauté. Francesco Lorusso, on est avec un fidèle, avec quelqu'un qui a connu Francesco Lorusso, qui a vécu cette époque et qui s'appelle Tiziano. Tiziano, il faudrait juste enlever le blanc des cheveux et de la barbe. Il a la silhouette, le ton et la vibration de l'époque. Tiziano.
Quel âge il avait?
Francesco, quand est morto, aveva 24 anni.
Quando le moglie aveva 24 anni.
Qui siamo praticamente nel posto in cui la cosa è successa.
On est ici exactement un peu près à l'endroit où la chose s'est passée.
Se facciamo qualche passo indietro, tu vedrai un muro con una lastra di vetro e dietro la lastra tanti fori di proiettili.
Si on fait quelques pas en arrière, on peut le faire d'ailleurs. Tu verras un mur avec une plaque de verre et derrière la plaque de verre des trous de balles.
Alors là, sur ce mur, il y a cette plaque de verre qui recouvre les impacts de balles qu'on a gardés depuis l'époque, depuis 1977. Et on voit effectivement les impacts, et autour des impacts, des ronds à la craie avec des numéros qui ont été faits par les enquêteurs. Mais il n'y a pas de légende, hein, on ne dit pas ce que c'est.
Diciamo così, questo è un vero e proprio monumento che è stato scelto per ricordare ovviamente Francesco, al di là della lastra.
C'est le véritable monument qui a été choisi pour se rappeler évidemment de Francesco, en plus de la stèle.
Ma anche per ricordare a tutti come allora reagiva la polizia a delle manifestazioni di piazza.
Mais aussi pour que tout le monde se souvienne de quel était à cette époque le niveau de réaction de la police face au mouvement de roue.
C'est effectivement très violent, hein. Il y a combien? Il y a 13 impacts sur ce mur.
Francesco scendeva da via Mascarella.
Francesco, il venait du quartier universitaire qui est dans cette direction. Il venait vers ici.
Et con altri 6 o 7 compagni.
Avec 6 ou 7 autres camarades.
Per vedere com'era la situazione qui in via Ernerio.
Pour voir quelle était la situation ici dans la via Ernerio, qui est une des grandes artères de Bologne.
E praticamente all'angolo c'era una.
A cet angle là, all'angolo opposé.
C'era un blindato dei carabinieri.
Il y avait un blindé des carabiniers.
E dalla torretta superiore del blindato.
E della tour à haut du blindé.
Come hanno visto i compagni con il fazzoletto.
Come ils ont vu les camarades avec des foulards sulle visage.
Hanno sparato. Quello che hanno fatto lo vedi qui e Francesco è morto qui.
Ils ont commencé à tirer et c'est. Les trous qu'ils ont fait, tu les vois là, et en bas, par terre, c'est là que Francesco est mort.
Ecco,
lacrimogeni. È ormai al semaforo di via Zamboni. I compagni stanno indietreggiando, stanno formando un corteo, non c'è resistenza. Stanno formando un corteo e si sono fermati. Già in Piazza Verdi si stanno spandendo i gas lacrimogeni. In questo momento il corteo sta partendo e si sta dirigendo nella zona San Donato.
Ok.
Tutto qua.
Ciao, grazie.
À partir de ces moments dans la ville, des milliers et milliers de jeunes décident d'occuper toute la ville et de briser les vitrines dans les centres, etc. Ça fut une espèce de insurrection qui dura pour trois jours. Eh ben, évidemment, la radio était dans la rue.
La radio était là.
Mais parce que on avait des gens qui téléphonaient continuellement à la radio, dans les cortèges, dans les barricades, etc. Les gens écoutaient la radio pour savoir ce qui se passe dans les autres lieux de la ville. Et donc, ça fut considéré comme une instigation aux émeutes, comme une coordination militaire des émeutes.
Ce qui était faux ou vrai? Un peu vrai.
Bah, c'était un peu vrai. C'était
même vrai.
En effet, on instiguait un peu. Moi, je me rappelle que j'ai instigué quelquefois dans ma vie. Et on instiguait à la révolte. Et faut dire que je n'ai pas arrêté d'instiguer les gens à se révolter. Je considère ça très moral et surtout amusante.
Oui, Radio Alice.
Allora, la polizia e i carabinieri hanno circondato l'università. Tutti i compagni che sono all'interno delle facoltà occupate o nei dintorni, è bene che stiano in gruppo concentrati in Piazza Verdi. Quelli che non sono andati a Roma, che sono rimasti a casa o a lavorare nei vari posti, è bene che anche loro.
Alors voilà, c'est comme ça qu'est né, nous on appelle ça des reportables aujourd'hui dans la base où j'y suis, mais ça c'était en 1977, l'une des premières radios libres en Italie. Les années 70, ça a été l'explosion des radios libres dans la péninsule et un usage de la radio, c'est-à-dire que chacun appelle d'un poste. Alors il n'y avait pas de portable à l'époque, bien sûr. On trouve des pièces, on appelle depuis une cabine, d'où on peut, et on informe cette radio qui informe tout le monde. Et c'est une nouveauté, parce que comme chez nous il y avait un monopole en Italie, Bifo vient de nous le dire, 76 c'est la fin du monopole, et on découvre un usage nouveau de la radio et de l'information, et on communique, et les habitants, les citoyens engagés dans cette lutte subversive à bien des égards, démocratique finalement sur le long terme, font de la radio cet usage en question. Et voilà ce qu'on évoque, donc Bologne, en les journées chaudes, très très chaudes, de 1977. Ça concernait combien de personnes, ce mouvement?
Ci saranno state 4-5.000 persone.
On pouvait compter sur 4-5.000 personnes, sur la seule ville de Bologne.
Et, però, quando c'era una manifestazione grossa,
on appelait à la manif,
riusciva a coinvolgere 15-20.000 persone.
On arrivait à avoir des manifs à 15-20.000 personnes,
dans une ville de
350.000 habitants.
Alors c'était une municipalité communiste déjà à l'époque, hein, Bologne. Quelle relation vous aviez avec la municipalité, avec le...
Pessime.
Néfaste, très mauvaise.
Pessime. Fummo attaccati in modo pesantissimo dall'amministrazione comunale.
On a été attaqué d'une façon très très rude par l'administration communale, municipale.
E diciamo così, aveva come scopo quello di dimostrare che noi semplicemente eravamo degli esponenti di destra.
E che aveva come solo but di dimostrare che on était des provocateurs de droite.
Alors, vous étiez les autonomes, on vous appelait les autonomes.
Les autonomes, sì, certo.
C'est ça, c'est ça. Et quelles étaient vos positions sur la lutte armée?
Allora, rispetto alla lotta armata, non c'era praticamente discussione.
Et à l'époque, par rapport à la lutte armée, il n'y avait presque pas de discussion.
Et pourtant,
certo,
c'était...
Certo, si guardavano con una certa simpatia i compagni delle Brigate Rosse.
Mais c'est certain qu'on regardait avec une certaine sympathie les camarades des Brigades Rouges.
Anche se non c'era nessun tipo di rapporto con loro e non lo si cercava.
Même s'il n'y avait pas de rapport, aucun type de rapport avec eux et on le recherchait pas.
Piuttosto quello che si cercava era appunto il modo con azioni più o meno illegali e più o meno violente.
Plutôt, la chose qu'on recherchait, c'était avec des actions plus ou moins illégales et plus ou moins violentes.
Di modificare e cambiare i rapporti di forza.
De modifier e de changer le rapport de force à l'intérieur de la société.
E anche quando c'erano, diciamo, i cortei più duri e più organizzati, in cui
il y avait les cortèges les plus durs et les plus organisés.
Migliaia di compagni facevano l'ormai famoso segno della P38.
Où des milliers de camarades faisaient le très connu geste comme ça de la P38.
Ah, on montrait trois doigts comme ça.
Sì.
Le pouce e i due primi doigts.
Sì,
voleva vedere il revolver.
Esatto. La maggioranza era armata solo di quelle tre dita e di molta buona volontà, insomma.
La maggiorità était armée justement que de ces trois doigts e de beaucoup de bonne volonté.
La polizia ha già attaccato la barricata lì davanti a Economia e Commercio. I nuovi compagni sono difesi e la polizia non è riuscita a passare. Adesso i compagni si dirigono verso Porta Zamboni.
Radio Alice, donc Bologna, mars 1977. On voit la base populaire, hein, que ce mouvement pouvait avoir à Bologne même. On pourrait croire que c'est seulement circonscrit à l'université, mais non, tout ce mouvement des années 70 jusqu'à 77, jusque là a une large base populaire. Pourquoi? Parce que ça vient de loin, cette histoire. C'est ça la grande différence avec nos années 70 à nous, en France. Le début de nos années 70, c'est que le mouvement de contestation des enragés étudiants sont restés étudiants enragés, étudiants diandian, comme on disait. Et puis d'autres, par ailleurs, on a eu un mouvement social, syndical très important, les plus grandes grèves de l'histoire ouvrière, c'était 68 en France. En Italie, ça a été différent. Le mouvement de contestation étudiant, même à Bologne, a réussi à engrainer avec une aspiration, une contestation qui venait de très loin, de très des profondeurs même de la société. Voilà pourquoi, lorsque l'université s'enflamme dans ces journées de mars 77, après l'assassinat par les carabiniers de Francesco Lorusso, c'est toute la ville qui se mobilise.
Le deuxième jour des émeutes, la police arriva dans les locaux de la radio. La radio fut saccagée, détruite par les flics, et une dizaine de rédacteurs ont été arrêtés. Mais les jours après, la radio a recommencé à transmettre. Un de nous était un génie de l'électronique. Pendant la nuit, il a reconstruit tout ce qu'il fallait reconstruire. Le matin après, Radio Alice a recommencé à émettre. Ça fut vraiment le moment plus enthousiasmant de toute l'histoire.
Attaccano da ogni parte la bestia, siamo noi la bestia, ci sparano, nella schiena, ci sparano addosso, da tutte le parti, la bestia è cerchiata.
Alle 23:15.
La polizia sfonda la porta ai radialice.
La squadra politica dileva al mattino, state attenti, hanno ordine di sparare i carabinieri. Le autoambulanze vengono chiamate prima degli spari. Alle ore 23:15.
La polizia sfonda la porta ai radialice.
5 compagni arrestati.
Ma gli altri 12 fuggono via etere.
Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso.
Alors voilà, ça c'est la fin de Radio Alice, la mise en scène, le récit de la fin de Radio Alice.
Il y a la police qui essaie de rentrer. Doucement les gars.
Pronto Alice. Un appello da Radio Alice, Radio Alice alla polizia alla porte. Tutti i compagni del collettivo giuridico di difesa per favore si precipitino qui in via Pratello.
Tous les camarades du collectif juridique che si précipitent ici, la polizia è a notre porte.
E io mi rifiuto di aprire, gli ho detto fino a che non calano le pistole e non mi fanno vedere il mandato.
Ils ont le pistolet pointé sur nous et j'ai dit que je ouvrirai pas si ils baissent pas leur pistolet, ils montrent pas leur mandat.
Per favore, d'urgenza, ti prego, d'urgenza, c'hanno le pistole, i colpetti antiproiettili e tutte ste palle qua. Ciao.
Les avocats, tout de suite ici, d'urgence, ils ont les pistolets, les protections antiproiettili, c'est comme dans les films. Il faut laisser libre la ligne, on a la police à la porte.
Se stanno ritrasmettendo come mi pare il nostro programma, Se per favore ci danno un avviso, via radio, vi sto ascoltando.
Le altre radio che nous écoutent, si arriva a ripercutere il nostro messaggio.
La situazione è stabile.
La situazione è stabile.
La polizia è... che aspetta di entrare, sempre
la polizia
con gli antiproiettili, sempre con le pistole puntate.
Toujours avec les pistolets.
Hanno detto... che sfonderanno la porta.
Ils ont dit qu'ils défonceront la porte.
Chiamo tutti i compagni, comunque conoscono avvocati, telefonari.
Tous ceux qui connaissent des avocats, il faut appeler tout de suite.
Noi siamo appunto assediati qui dalla polizia in questa maniera.
On est assiégé par la police.
Non so se avete visto il film, porca vacca come cazzo si chiamava.
Je sais pas si vous avez vu le film, merde, je me rappelle plus le titre.
Caterina Blum, stessi identici, elmetti, gli stessi denti. Che giubbotti antiproiettili.
Ils ont les mêmes têtes, les mêmes pistolet.
Di questo genere. Veramente assurdo, veramente
vraiment absurde.
Incredibile.
Incroyable.
Veramente da film.
Vraiment come un film.
Giuro che se non battessero sulla porta qui di fuori, penserei di essere al cinema.
Si, se te pas en train de taper sulla porta che j'entende, je penserai être au cinéma.
Siamo qui che aspettiamo.
Non, ici, on fait contre-information. E on attend la police pour voir qu'est-ce qu'il fout. Pour le moment, ils se sont
non fanno
calmés.
Tanto casino, si sono calmati, hanno smesso di picchiare contro la porta.
Ils ont arrêté de taper sur la porte.
Perché la ritengono molto robusta.
Peut-être qu'ils pensent que c'est très robuste.
Un po' di musica, poi.
Le on mette un peu de musique, merde.
Il telefono qui a getto continuo, veramente.
Le telefono n'arrête pas de sonner.
Ecco qui Beethoven, se vi va bene.
E voilà du Beethoven.
No, sì,
se vous l'aimez, tant mieux, sinon merde.
Dunque la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a urlare di aprire.
La polizia ha ricominciato a battere sulla porta.
Stai giù.
Fai attenzione, bestia.
Sono porco di aprite e cose di
questo genere. Ils ont un jour.
Sono entrati.
Ils sont rentrés, ils sont rentrés. Ils sont ici.
Con le mani alzate.
On a les mains, on a les mains levées. On a les mains levées. Ils ont arraché le micro. On a les mains levées. Ils ont arraché le micro.
La ville a recommencé à écouter la voix de la révolte. Et ça a duré 3-4 heures. Après, la police est rentrée dans les locaux, a arrêté encore les rédacteurs. Et à ce moment, on a dû, après les 13 mars, c'est-à-dire après la deuxième fermeture, Radio Alice s'est arrêté. Moi, je n'étais pas dans les locaux, j'étais dans les rues, et je me suis tiré, je suis parti pour Paris, justement. Où est-ce qu'on va de l'Italie? À Paris. Quand on est cherché par les flics, on part pour Paris. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi. Et moi, je suis parti à Paris, et ça a repris les émissions 2 mois après. Après que une partie de l'opinion publique à Bologne et en Italie a refusé cet autoritarisme, et donc on a repris les émissions à mai, 2 mois après. Moi, j'ai été arrêté à un moment par les flics à Paris parce que les juges italiens ont demandé qu'on m'extrade vers l'Italie.
Déjà, ça avait commencé.
Ça a commencé en juillet 77. Moi, j'ai été arrêté, mais ça a duré très peu parce que à Paris, tout un réseau de gens ont commencé à bouger, à demander ma libération, etc. Et les juges ont décidé de refuser mon extradition. Que moi, je pouvais rester à Paris. Que j'étais pas un criminel, j'étais simplement révolté.
Simplement révolté, Bifo, avec cet enregistrement extraordinaire de la fin de cette radio Alice qu'on vient de faire en direct. Hein. On vient de le faire en direct, un peu en hommage à ces radios libres de ces années-là. Francesco a traduit à l'instant en direct donc cet écho sonore de 1977. Donc voilà, ces journées, on a une image de cette façon. C'est pas les années de plomb là ce qu'on entend.
important. C'est les années d'effervescence, c'est les années politiques, c'est les années de contestation, c'est les années d'une volonté, d'un horizon, d'un espoir extraordinaire qui a aussi parcouru ce pays, même si, comme le dit Tiziano avec un peu d'émotion aujourd'hui dans la voix 27 ans plus tard, c'était quand même assez rude.
E intanto, visto che questa, diciamo, occupazione della piazza continuava, c'erano molti, moltissimi cittadini che cominciavano ad avvicinarsi alla zona per capire, per vedere cosa stava succedendo.
E l'occupazione della place n'a pas été élevée, et il y avait de plus en plus de citoyens qui venaient pour voir qu'est-ce qui se passait.
E ovviamente hanno trovato una situazione di scontro militare, una situazione da città in rivolta.
Et ils ont vu qu'il y avait une situation de ville en révolte.
Qui dietro al teatro comunale esiste un negozio di armi che c'è ancora.
On a dévalisé une armurerie qui était derrière le théâtre communal d'ici.
E naturalmente è stato aperto e saccheggiato il ristorante che era.
Et puis il a été ouvert et saccagé et on a distribué tout ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Le resto, c'est resto il Canton Sen si chiamava. Che era un resto le più chic della ville, on l'ha ouvert e on a distribué tout ce qu'on a retrouvé all'interno.
Quando si è sparsa questa voce?
E con la nouvelle courue che on avait dévalisé une armurerie e qu'on était en train de saccager les symboles de l'opulence de la ville.
Una gran parte della popolazione di Bologna ha cominciato a girare qui dentro cercando in qualche modo di approfittare di queste cose.
E molte persone sono state arrestate con un prosciutto sotto al braccio e altre cose. Il y a des gens qui ont été arrêtés avec un jambon sous le bras.
Perché all'interno del ristorante c'era un pianoforte e quel pianoforte era stato portato a far parte della barricata. Ora, durante questa carica violentissima in cui la polizia ha sparato a più non posso e in quell'occasione
avevo sortito du Canton Sen de ce restaurant
non ho ancora capito come non si siano verificati morti o feriti in un'occasione
on l'avait mis sulla barricata dalla via Petroni
che si era messo al piano e bello come il sole senza fare
un
charge
de police
secondo
più violente la police tire e les camarades répondent au tir et là c'est des tirs de coups d'arme à feu mais et on sait d'ailleurs on est encore surpris de se rendre compte qu'il n'y a pas eu de morts et de blessés. Et malgré cette énorme charge, ce tir croisé, un camarade poliomyélitique, comme ça, il s'est mis au piano et il a joué
Chicago.
Chicago de
Crosby, Stills, Nash & Young. Era un indice profondo dello spirito con cui quel movimento affrontava anche queste cose così terribili.
E c'était typiquement dans l'esprit de ce mouvement de faire des échauffrés hyper violents tout en jouant de la musique sur un piano sorti d'un restaurant élégant.
Primo perché se vogliono ascoltare delle radio che fanno per loro ce ne sono tantissime a Bologna, anzi tutte le altre sono per loro, quindi chi si ascoltano la musica a tavola. Poi tornando a cosa è successo in Rizzoli, la polizia che eravamo rimasti era chiusa alle due torri ha rispedito fuori candelotti lacrimogeni, via Rizzoli è piena di lacrimogeno, per un attimo silenzio, poi appena passate le lacrime la gente sta tornando, si sentono già gli slogan, vado già a vedere, hai capito? Dunque la polizia sta contrattaccando, stanno venendo su tutti in forze dalle due torri provando di respingere tutti i dimostranti. Sono arrivati in piazza Renzo e da l'Indipendenza li stanno prendendo le spalle, quindi praticamente hanno chiuso i dimostranti. Un attimo ancora. Niente. Questo non ci sta niente, perché credo che nessuno dei ragazzi sia in ascolto, radunati tutti quanti in piazza Maggiore, l'unico quadrato che si può fare adesso, in questo momento. Quindi chi si ascolta una musica a tavola. La polizia ha attaccato la barricata lì, davanti con il commercio, i nostri compagni sono difesi e la polizia non è riuscita a passare, adesso i compagni si dirigono.
barricate. Porta San Boi è libera, non c'è polizia, e probabilmente dopo ci andrà giù per San Donato.
Alors bien sûr on se la raconte, alors bien sûr on reconstruit le passé, bien sûr ça s'est peut-être pas tout à fait exactement passé comme ça, mais voilà, chacun construit, reconstruit ses mythes, nos histoires, nos pensées, nos plaisirs, nos bonheurs sont faits de ces histoires qu'on arrange, qu'on essaye de faire passer. Journée chaude, brûlante, terrible de Bologne, donc mars 1977, et moment charnière dans ces années de plomb italienne, parce que là, la mort de ce garçon, de le Rousseau, va pousser, précipiter ceux qui hésitent encore vers souvent vers la lutte armée.
A quel punto, dopo queste due cariche violentissime, visto che non riuscivano comunque a sfondare,
malgré les charges de plus en plus violentes, ils ont pas réussi à enfoncer les barricades.
Probabilmente la polizia ha avuto l'ordine di ritirarsi nelle caserme.
E la polizia ha avuto l'ordine di se ritirare, di rentrare dans les casernes.
È sparita dalla città.
On l'a plus vu des policiers autour du périmètre qu'on défendait.
Dopo parecchie ore che non si vedevano più né divise né blindati, sono state mandate in giro delle staffette in motorino o in bicicletta.
On a envoyé des gens à vélo et à mobilette pour voir qu'est-ce qui se passait dans le reste de la ville et la non c'è più trace di
polizia. Non c'è più polizia, non c'è più neanche a 5 km da qua, non è più in città.
Arrivati fino a 100 km di sì e non c'è l'ombra di un poliziotto.
Abbiamo conquistato la città.
On s'est dit on a conquis la ville.
E quella è stata una notte quasi di festa.
E c'était donc la nuit qui a suivi, ça a été une nuit presque de fête.
Il problema è che all'alba tutti quelli che si sono svegliati.
Le seul détail c'est qu'à l'aube quand on s'est réveillé,
si sono svegliati con i carri armati in casa praticamente.
Il y avait les chars qui encerclaient le quartier universitaire.
Cosa che non era mai successa dal giorno della liberazione.
Chose qu'on n'avait jamais vu depuis le jour de la libération des nazis.
E in più tutte le strade erano presidiate da almeno 3 o 4 posti di blocco.
Et dans chaque rue il y avait 3 ou 4 barrages de police.
Che perquisivano tutte le persone che passavano.
Qui fouillaient tous ceux qui passaient.
Però appunto su questo si innesta la violenza quasi contemporanea fra Bologna e Roma nel marzo del 77.
E c'è sul settore là che la violenza des insurrections a Bologna e Roma 77 devient un fertilisant.
E quindi molti compagni cominciano a interrogarsi se è sufficiente mantenere in qualche modo l'illegalità del movimento precedente o se è più o meno giustificato o necessario quello che si può chiamare il salto di qualità, bruttissimo termine, ma quello era, insomma.
Ed è a partire da là che beaucoup de ses camarades qui ont pratiqué l'illégalité diffuse pendant des années se demandent après les échauffourées, les insurrections de 77, si c'est pas le moment de passer de faire ce qu'on appelait à l'époque, avec un terme qui me plaît pas du tout, le saut qualitatif.
Saut qualitatif, et vers la lutte armée.
Voilà.
Morire per delle idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta. Perché chi ce l'aveva? Una folla di gente gridando viva la morte proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente, abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede.
Et oui, mourir pour des idées, la question se posait au moins dans la chanson de Brassens à l'époque en France, et elle fut traduite en italien, parce qu'évidemment la question se posait aussi là-bas, et ce moment de Bologne, ce moment de mars 77 a été un point crucial. Et puis l'année suivante, on en parlera demain et après-demain, et ben 78 c'est l'enlèvement et l'assassinat, l'exécution d'Aldo Moro par les Brigades Rouges. Comment à ce moment-là, Biffo, l'un des créateurs de cette radio, Radio Alice, a réagi? Qu'est-ce qu'il en a pensé?
Qui est Radio Alice?
au moment de l'enlèvement d'Aldo Moro, tu te souviens quelles étaient vos réflexions, vous?
Je m'en rappelle très bien parce que, bon, j'étais rentré de France, j'écrivais des choses, la police a aussi saisi mes cahiers de notes que je prenais pendant l'enlèvement d'Aldo Moro. Et ma position à l'époque, ma position écrite, était « ceci est le début de la défaite, ceci est le début, c'est fini ». L'enlèvement d'Aldo Moro signifie que la bêtise stalinienne a pris la majorité dans le mouvement de libération et donc le mouvement est fini. En effet, c'est justement ce qui s'est passé. Le mouvement était fini le jour même où Aldo Moro a été saisi. Mais je dirais que les années 70 ont été une période vraiment de transition, dans le sens que c'est la modernité qui s'achève aux années 70. Mais c'est la modernité dans tous ses sens. C'est l'espoir, c'est la promesse de la démocratie qui termine à l'époque. Et les années 70, c'est pas seulement les années de Radio Alice, des Brigades Rouges, c'est aussi les années du punk, mais c'est aussi les années de Apple Computer, l'ordinateur, justement, au 77. C'est aussi l'année dans laquelle Yuri Andropov, qui à l'époque était le chef du KGB, écrit une lettre au cadavre de Léonid Brejnev, qui était le président de l'Union soviétique, pour lui dire « Écoute mon coco, si on rattrape pas l'écart entre nous, soviétiques, et les Américains sur les terrains de l'information, on est foutu. » Et on sait comment ça s'est terminé. Tu vois, les années 70, c'est les années de l'information au pouvoir. Et ça signifie une liberté, une démocratie énorme, hein, mais ça signifie aussi le début de quelque chose de monstrueux. Parce que l'information au pouvoir, ça peut signifier que le pouvoir s'empare de l'information et fait de l'information un instrument de domination complète sur le cerveau humain, sur l'esprit humain. Donc les années 70, à mon avis, ont été le moment où l'espoir de la liberté, de la démocratie et de l'égalité a été plus concret, mais ça a été aussi le moment où cet espoir s'est dissous, s'est perdu. Je crois, forever. Moi, j'ai participé à tout ce qui s'est passé depuis 1999, après Seattle. J'ai participé aux trois journées de Genova. J'étais sur les barricades à Genova. Et donc, je suis dedans cette espèce de mouvement altermondialiste. En même temps, je crois que c'est un mouvement qui est un mouvement de révolte. Est un mouvement pour donner à la minorité une possibilité d'expression et de vie autonome. C'est l'autonomie qui continue à m'intéresser. C'est l'autonomie, le concept central. L'autonomie entendue aussi de façon un peu pessimiste comme une façon de se mettre au dehors de ce qui est destiné à se passer. C'est-à-dire, moi, je vois le processus de développement du capitalisme global comme un processus trop enraciné dans la technologie, dans l'esprit humain connecté, pour pouvoir le renverser. Je crois qu'on peut s'échapper à ça. Trouver, comme disait Félix Guattari, des lignes de fuite. C'est les lignes de fuite qui m'intéressent. Et je considère le mouvement altermondialiste comme une ligne de fuite.
Merci Bifo, merci Tiziano, merci à toute l'équipe de la Basse Jissui, Pascal Baldassari, Patrick Leroux, Antoine Chao, Koyen Guyen, Yann Chouquet, Thierry Scharf, Guy Vanctil, Francesco Giorgini, Christophe Imbert et Pascal Pascariello. On se retrouve demain à 17h pour la Basse Jissui. Cette fois, on parlera des Brigades Rouges avec d'anciens brigadistes rouges. À 17h donc demain, il est 18h et une poignée de secondes sur France Inter. Je vous laisse pour le journal avec Agnès Bonfillon. Salut.